Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser.
Comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui?
Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais.
En réalité, nous sommes des fantômes, mais...
Vos histoires ne m'intéressent pas!
Je dirais malgré tout que cette vie fut belle.
Fleur de Cactus est un podcast qui explore l'impermanence avec audace. Tout change, rien ne dure. Tout a une fin, tout est recommencement. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Que nous arrive-t-il lorsque nous mourons? Qu'est-ce que l'au-delà? Qu'est-ce que la conscience? Est-ce que notre conscience continue après la mort? C'est le sujet que je vous propose d'explorer pour cette nouvelle saison de Fleurs de Cactus. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à écouter ce podcast qui revient enfin, ça y est. Il va y avoir toujours les billets philosophiques bien sûr, mais ça faisait pratiquement un an que je ne vous avais pas proposé un contenu en lien avec le deuil, en lien avec, avec la mort tout simplement, qui est vraiment le sujet de prédilection de ce podcast. Et pas mal d'entre vous sont en train de découvrir ce podcast. J'ai encore des personnes qui s'abonnent aussi à mon compte Instagram qui proviennent du monde funéraire ou qui travaillent dans l'accompagnement au deuil. Donc ça m'a fait tilt à un moment donné où je me suis dit « bon, il faut que je reprenne un petit peu ce sujet à bras le corps ». Et alors, bien sûr, dans cette saison, je vais encore parler du deuil, mais avec une dimension un peu plus élargie. J'aimerais parler de la vie après la mort. C'est un sujet qui m'intrigue depuis plusieurs années déjà, et le podcast ayant pris de plus en plus de place dans ma vie, naturellement, je me suis tournée vers la spiritualité, même si elle était déjà présente dans ma vie, mais de manière beaucoup plus incarnée. J'étudie la philosophie du yoga, je donne des cours de yoga nidra, et donc forcément, quand on étudie le yoga, on parle de la vie après la mort. Si vous écoutez les billets philosophiques de Fleur de Cactus, vous m'avez déjà entendu parler de réincarnation, de samsara, toujours avec distance, bien sûr, parce que bon, je suis occidentale et ce n'est pas ma culture à proprement parler. Mais je trouve que ces préceptes éclairent pas mal notre façon d'appréhender la vie. Dans cette bande-annonce, j'aimerais vous parler de mon parcours en lien avec cette thématique, avec la thématique de la vie après la mort. Parce que mon parcours m'a mené tout droit vers cette thématique, plus largement avec la thématique du deuil hein, et de la mort. J'ai eu comme ça des événements qui m'ont montré une direction. Et donc... C'est avec beaucoup de pudeur, mais je vais essayer d'être le plus détaché possible de ce que je vous raconte et de ne pas en faire une montagne, parce que je n'aime pas trop parler de moi, généralement. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast, hein, c'est pour faire parler les gens. Mais je trouvais que c'était intéressant que vous ayez mon point de vue pour comprendre aussi comment j'aborde cette thématique. C'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter qui je suis. Il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent au compte Instagram, qui écoutent le podcast. Et comme j'ai à cœur de construire des relations de confiance, je me suis dit que c'était l'occasion de vous expliquer les étapes clés de ma vie à la lumière du sujet qui nous intéresse, qui est la vie après la mort. Il y a 10 ans de ça, jamais j'aurais cru devenir prof de yoga nidra un jour. Jamais j'aurais cru créer un podcast, encore moins sur le deuil. Et jamais j'aurais cru non plus créer des escapades, qui sont donc ces stages que j'organise sur 4 jours, qui sont comme des retraites, pour mieux traverser le deuil, qui soit lié à la perte d'un proche, mais aussi lié à un changement de vie abrupt. Donc, je rembobine le film, je suis franco-mexicaine. Je suis née d'une mère française et d'un père mexicain et je suis née au Mexique. Donc c'est un détail important dans mon parcours, dans ma trajectoire, comme on dit en sociologie, parce que la culture mexicaine a beaucoup imprégné ma vision de la vie après la mort Et d'autant plus qu'il m'est arrivé là-bas un événement qui va chambouler ma vie. Mais ça, j'en reparle dans quelques minutes. Après avoir fait Hippocagne-Cagne, donc classe prépa littéraire, j'ai fait une licence d'espagnol, forcément. Et j'ai décidé, après l'obtention de ma licence, de faire une année sabbatique. C'est là que tout a été chamboulé dans ma vie. En effet, je suis partie au Mexique et aux États-Unis pendant une petite année. J'avais 21 ans à ce moment-là. Et donc, pendant la première partie du voyage, j'ai passé plusieurs mois au Mexique, au sein de ma famille. Au mois de novembre 2009, j'ai un accident de voiture très grave, durant lequel une personne décède, et non pas des moindres, puisque c'est un ami très proche, qui est aussi le conjoint de mon cousin. Donc nous sommes dans la même voiture et Fernando décède. Donc c'est une personne dont je vous ai pas mal parlé lors de plusieurs épisodes, notamment un épisode que j'ai enregistré avec Ludivine Morin, pour parler de nos deuils respectifs et pour voir un peu comment ces deuils nous ont permis de voir la vie autrement. Et Fernando est décédé la veille de la fête des morts. Donc c'est vrai que quand on regarde loin, je me dis c'est quand même ahurissant que cet événement-là ait eu lieu la veille de la fête des morts et que cet événement ait eu un impact aussi fort plus tard, puisque 10 ans après, je fais un podcast sur la mort et le deuil. Et en plus, je m'appuierai sur cette expérience-là pour en parler. Et non seulement de ce podcast vont naître beaucoup de choses extraordinaires pour pouvoir aider les personnes à traverser leur deuil. Cet accident est donc le premier événement clé qui m'a mis sur la piste de la spiritualité. Parce que forcément, quand il nous arrive quelque chose de cette envergure, on se demande quelle est notre mission de vie, pourquoi on a survécu. Et suite à cet événement, j'ai commencé à avoir des expériences dites surnaturelles. Mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Il m'est arrivé un truc hyper chelou. J'ai eu une prémonition la veille de l'accident de voiture où je me voyais traverser le pare-brise. Et quand je me suis réveillée, j'étais extrêmement... Alors, je ne sais pas si le mot est choqué, mais j'étais très surprise parce que j'avais l'impression vraiment d'avoir ressenti les sensations d'un accident de voiture. J'avais l'impression d'avoir eu comme un rêve lucide. Tout était limpide, à tel point que j'en ai parlé à mon cousin le lendemain matin. C'était vraiment la première fois que je ressentais cette sensation où quelque chose était sous mes yeux, enfin, que je vivais un rêve de manière aussi intense, mais avec énormément de lucidité. Et je me rappelle encore trait pour trait de ce rêve. Quand j'ai eu cette prémonition-là et que l'accident est arrivé, c'est là que je me suis dit « Non, mais c'est quand même dingue d'avoir eu cette vision en rêve et cette même vision qui, pour moi, m'a sauvée. » Parce que quand j'ai eu cet accident de voiture, c'est comme si mon corps était déjà prêt. Quand j'ai vu la voiture arriver, ça s'est passé en une fraction de seconde. Je me suis accrochée à la portière pour éviter de passer par le pare-brise. Oui, parce que petit détail, je n'étais pas attachée, bien sûr. Or, dans mon rêve, c'est ce qui s'était passé. Je passais à travers le pare-brise. Ce saut dans le futur m'avait intriguée déjà à l'époque. Et je m'étais dit comment mon esprit était capable d'aller dans le futur. Et donc, ça avait déjà semer une graine en moi pour mon début d'exploration de l'âme. Alors, bien sûr, en mon fort intérieur, je pense que j'ai été protégée, mais protégée par qui ? Par Dieu, par mon ange gardien, par quoi, comment ? Et là, on parle de croyance. Est-ce que mon âme le savait déjà que cela allait m'arriver ? Alors, ce détail-là, j'en ai pas parlé pendant des années. C'est pas quelque chose auquel j'ai prêté attention au début. Je me suis juste rendu compte que oui, j'avais eu ce rêve. Et oui, ce rêve, selon moi, m'avait sauvée. Mais j'en ai pas fait tout un pataquès. Et en fait, maintenant que j'étudie la conscience, que j'étudie la vision yogique aussi de l'âme, de la conscience, et maintenant les EMI, je me rends compte qu'en fait, on a sûrement accès à des informations qui dorment en nous et on n'a pas la clé, en fait, pour y accéder. Donc, je vais maintenant faire une petite digression pour quand même aborder le sujet des EMI, qui va être un gros pan de réflexion de cette saison 4. Mais avant, petit rappel, EMI signifie « expérience de mort imminente ». Lors d'une expérience de mort imminente, l'individu est confronté à sa propre mort, dans différentes circonstances, avec danger réel ou pas d'ailleurs. On reviendra sur ce point, mais en gros, certaines personnes peuvent vivre une EMI lors d'une méditation, lors d'une fièvre, mais aussi lors d'une crise cardiaque, lors d'un coma profond, donc quand leur vie est en réel danger. Toute personne qui s'intéresse aux OMI, aux expériences de mort imminente, a forcément vu passer le nom de Raymond Moody, qui est un psychiatre, psychologue, philosophe, médecin américain, et qui a jalonné la réflexion sur les OMI dans les années 70. C'est lui qui a été le précurseur. Après, il y a eu beaucoup d'apports scientifiques sur la question, mais c'est le premier qui a eu le postulat de dire « Ok, peut-être que la conscience survit après la mort. » Il a identifié un portrait robot d'une EMI qui permet de voir les différentes étapes d'une EMI. Parce que d'une personne à une autre, d'un témoignage à un autre, on se rend compte que les étapes sont quand même très récurrentes, elles résonnent entre elles, il y a certaines nuances, mais quand bien même il y a beaucoup d'étapes qui font partie intégrante d'une EMI. Je ne vais pas énumérer toutes les étapes d'une EMI, mais en revanche, ce qu'on peut retenir, c'est que malgré le fait que l'encéphalogramme du patient est plat, la personne qui revient d'une EMI rapporte des faits très troublants. Elle a vu des choses, elle a parlé avec des personnes, des entités, et surtout, elle revient avec des informations qui peuvent être vérifiables. Par exemple, le patient aurait vu le personnel soignant autour de son corps, parce qu'il était comme décorporé et qu'il était au-dessus de son corps et qu'il pouvait voir en fait certains gestes qui ont été faits. Il va pouvoir dire par exemple qu'il a entendu tel et tel mot, certaines paroles de ses proches qui sont venus le voir. Et la personne qui vit une EMI vit une expérience visuelle, des sensations nouvelles jamais ressenties. Donc comment cela est possible puisque le cerveau est en mode off? Plus étonnant encore, selon ces témoignages, il arrive que les personnes qui vivent une EMI sont soit au courant d'événements qui ont lieu pendant qu'elles font une EMI, notamment quand survient un décès. Et quand elles se réveillent, elles annoncent qu'un tel est décédé alors que même l'entourage n'est pas au courant. Tout ce que je vous raconte ici, ce sont des choses que j'ai lues dans différents livres qui ont été écrits par des médecins psychiatres, des neurologues, des chirurgiens qui sont aussi revenus d'une EMI et qui eux-mêmes sont abasourdis en fait de l'expérience qu'ils ont vécue et qui remet en cause le paradigme scientifique matérialiste en place. Parce que en effet, le paradigme qui est convenu dans la sphère scientifique, c'est que la conscience proviendrait du cerveau. Or, ces témoignages montrent que, au contraire, la conscience serait bien plus large que ça, se situerait à un autre niveau, puisque même si l'encéphalogramme est plat, ces personnes-là qui vivent une EMI ont accès à des informations qui sont ensuite avérées. Donc c'est le moment un peu de définir les termes qu'on utilise ici. Le mot « conscience », pourquoi d'ailleurs serait-il plus judicieux de parler de conscience plutôt que d'âme? Ça, c'est une des questions que j'ai, mais je pense que ça dépend en fait surtout du prisme à travers lequel on étudie cette entité qui fait partie de nous, si c'est à travers un prisme religieux ou pas notamment. Donc en fait, qu'est-ce que la conscience? J'ai regardé le dictionnaire de l'Académie française et j'ai choisi la définition qui est donnée depuis le prisme psychologique. C'est la perception que nous avons de notre existence, des états et des actes de notre esprit, de ce qui se passe en nous et de l'effet produit en nous par ce qui se passe hors de nous. Donc c'est l'impression d'être présent au monde. Dans le mot conscience, on trouve l'étymologie donc conscientia qui veut dire connaissance, connaissance intérieure, connaissance en commun. Donc en fait, la conscience, c'est ce que l'on connaît du monde. C'est notre rapport au monde, c'est notre place dans le monde, c'est ce que l'on sait de nous-mêmes. Et c'est vrai que quand on lit les témoignages d'expériences de mort imminente, les personnes savent vraiment qui elles sont quand elles sont décorporées, quand elles sont dans cet état de décorporation et qu'elles se voient à l'extérieur, qu'elles voient le corps sur le brancard, qu'elles voient les gens autour d'eux, qu'elles voient leur famille, il y a une conscience de ce qu'elles sont. Et elles reviennent quand la question qui est posée, voilà, est-ce que tu reviens ou pas dans ta vie ? On verra qui pose cette question durant les interviews que je vais mener. Elles reviennent avec la conscience d'avoir une mission sur Terre. Elles reviennent parce qu'elles se sentent motivées par quelque chose. Donc, ça veut dire qu'elles se perçoivent elles-mêmes. Lors de ces EMI, certaines personnes ressentent une forme d'omniprésence. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, elles sont dans le présent et elles sont partout à la fois. Et elles ressentent aussi une forme d'omniscience, c'est-à-dire de connaissance de tout. Quand elles reviennent, elles ont tout oublié. Bien sûr, sinon ça ne serait pas drôle. Mais elles ont la sensation de savoir exactement quel était le sens de leur vie. Quel était le sens de tout ce qui nous arrivait lors de notre existence. Parce que parfois, on vit des trucs atroces et on se dit « Non, mais à quoi bon vivre, finalement ?» Ceci étant dit, je reviens au petit film de ma vie. Donc après mon passage au Mexique, voilà, mon accident de voiture a lieu, je voyage, je vis ma meilleure vie aux États-Unis. Je reviens en France pour commencer un master en études latino-américaines. Et après 3 ans, je décide, donc après l'obtention de mon master, je décide d'aller au Népal. Et là aussi, ça va être une période charnière de ma vie. Et je vais travailler au sein d'une équipe de tournage en tant que cadreuse, en tant que caméraman, si vous voulez. Donc, en effet, rien à voir avec mes études, parce qu'en arrivant là-bas, je me rends compte que mon rêve, en fait, le plus fou, c'est de devenir réalisatrice de films. Et je me dis, j'ai pas fait les études pour, donc la meilleure façon d'apprendre, c'est de le faire sur le terrain. Et c'est en allant chez un chaman qui devient mon ami, que je fais un reportage sur lui pour moi, en fait, hein, pour apprendre à manier la caméra. Et le jour où je vais chez lui, je rencontre une équipe de tournage qui est à la recherche d'une assistante de réalisation. Et bien là, c'est le jackpot. Donc pendant 1 an, je travaille avec cette équipe avec laquelle je vais couvrir tous les festivals principaux du Népal et surtout couvrir les rituels chamaniques. Le chaman, c'est un médium, un pont, qui fait le lien entre le monde des esprits et le monde des humains. Lors de ces tournages, j'ai aussi ma casquette de sociologue-anthropologue et donc je fais énormément de recherches pour nourrir les reportages et les documentaires. Et pour essayer de comprendre aussi ce que je filme, en fait. Et j'apprends énormément. J'apprends énormément sur la philosophie du yoga, sur le chamanisme, et je commence à confronter ce qui est l'ordre de la croyance à ce qui est de l'ordre de l'expérience. La croyance peut se transformer en dogme, en pensée inébranlable qui nous éloigne de la réalité de l'expérience. Parce qu'en effet, à partir du moment où j'ai mis un pied dans le chamanisme, En tant qu'observatrice, hein, je ne suis pas chamane ni rien, et d'ailleurs ça ne m'attire pas, je n'ai pas envie d'être chamane, absolument pas. C'est loin d'être glamour et loin d'être une mission de vie facile, je trouve, en tout cas à mes yeux, même s'il y a tout ce côté sensationnel qui est fascinant. Et donc, je commence à avoir des expériences dites surnaturelles, qui me font un peu peur. Je finis par tout bloquer. Je ne sais pas comment j'ai pu faire, mais je finis par ne plus donner d'importance à ces manifestations-là. Et donc, du coup, ça s'arrête. Donc, quand je parle de manifestations, ce sont des défunts, des âmes errantes, des entités. Donc, ça ne fait pas de moi une médium non plus. Ce n'est pas quelque chose que je pouvais faire sur commande. Ça se manifestait de manière très spontanée, dans des lieux particuliers. Et ces expériences-là m'ont juste permis de me dire « Ok, ça existe ». Ce n'était plus une croyance, en fait, pour moi. C'était vraiment de l'ordre de l'expérience, quelque chose que j'avais vécu dans ma chair. Alors, sûrement que là, à ce stade, vous aimeriez avoir plus de détails sur ces expériences que j'ai pu avoir. Peut-être que j'en parlerai dans d'autres épisodes. Mais en attendant, je peux vous dire que le sujet du vécu subjectif d'un contact avec un défunt, tel que c'est appelé, c'est-à-dire le contact avec un défunt, fera partie des thèmes qui seront étudiés ici, qui seront explorés. Mais j'aimerais aussi beaucoup faire la place à la médiumnité, au chamanisme, à la transe cognitive auto-induite, un protocole qui a été créé par Corinne Sombrin. Donc en fait, des états de conscience élargis, des états de conscience modifiés, si vous préférez ce terme. Le film de ma vie continue, et donc je rentre en France, je deviens cadreuse-monteuse, je fais aussi de la réalisation, et donc je m'éclate comme ça pendant quelques années, jusqu'en 2020, où tout le monde connaît la crise sanitaire et qui nous met face à notre vulnérabilité, et surtout qui va mettre dans l'inertie toutes nos activités et donc nous offrir ce moment d'introspection. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, je vais créer le podcast Fleurs de Cactus. C'est vraiment le podcast qui m'a mis sur la piste du yoga et d'intégrer le yoga non seulement comme une philosophie de vie, mais aussi comme une pratique que j'avais envie d'enseigner. Je me suis formée en yoga nidra l'année dernière. Donc, j'ai rajouté une petite formation à mon cursus qui n'a rien à voir avec le reste. Et pourtant, je crois que c'est sûrement la casquette que je porte qui me va le mieux si je ne m'avance pas trop. Mais vraiment, je me sens à ma place quand j'enseigne le yoga nidra. Et donc, j'aimerais redéfinir ce que c'est pour que vous compreniez pourquoi j'aimerais intégrer la méditation dans cette nouvelle saison 4 de Fleurs de Cactus. Pourquoi j'aimerais qu'on explore ensemble les bienfaits de la méditation et comment la méditation nous permettrait-elle de mieux vivre notre vie et plus particulièrement la fin de vie, ce passage de la vie à la mort. Généralement, on présente le yoga nidra comme une pratique qui va vous aider à vous endormir, ce qui est vraiment à côté de la plaque, parce que c'est loin d'être la fonction première de cette pratique, c'est même pas sa fonction du tout, j'ai envie de dire. Le yoga nidra est issu du tantra, donc un texte millénaire, et c'est Swami Satyananda Saraswati qui a remis au goût du jour cette pratique. Et plus exactement, c'est lui qui l'a créé en s'appuyant sur ses textes millénaires. Et donc le yoga nidra, c'est un état qui se situe entre la veille et le sommeil. Et cet état-là est très régénérant, ressourçant, non seulement dans le corps, on le ressent vraiment après une séance, on se sent plus régénéré, on a plus de vitalité, plus de motivation, on se sent comme reposé, mais aussi d'un point de vue mental et émotionnel. Il y a comme une purification qui se fait, une harmonisation. Je ne vais pas entrer dans les détails du yoga nidra, parce que sinon il faudrait faire un podcast entier sur le sujet. Mais ce que l'on doit retenir, c'est que le yoga nidra nous permet d'augmenter la qualité de notre présence à nous-mêmes. Parce que quand on est en yoga nidra, la proposition est de rester éveillé, de rester concentré sans le faire de manière intense, être juste là, ce qui induit un état de méditation, un état de conscience modifié, de conscience élargie. À force de pratiquer, il y a une forme d'intuition qui va colorer notre façon d'aborder la vie. Il y a aussi une meilleure présence à nous-mêmes, comme je le disais, donc on accueille plus aisément ses émotions et donc comme on accueille, c'est beaucoup plus facile pour les dissoudre, surtout quand il s'agit d'émotions perturbatrices, comme la colère, comme l'envie, comme la jalousie, etc. Et enfin, au yoga nidra, il se peut qu'on ressente comme une... Vous savez, ce présent omniscient dont je parlais en rapport avec ces personnes qui expérimentent les EMI. On est juste présent à nous-mêmes, on est connecté à ce grand tout et on se dissout un petit peu dans ce grand tout. En yoga nidra, ce que j'ai pu constater et ce que j'ai pu lire aussi à ce sujet, c'est qu'on est juste présent à nous-mêmes dans un état où on est suspendu dans le temps. Il n'y a pas de futur ni de passé, on est juste là. Alors bien sûr, la pratique peut être parasitée par des pensées, par des inquiétudes, mais c'est pour ça qu'il y a tout un protocole d'étapes qui nous permettent d'atteindre déjà une relaxation physique. Et donc, c'est par la détente physique qu'on va pouvoir accéder à un apaisement du mental. Et ainsi, peut-être, atteindre une forme de sérénité, ce moment où le temps est suspendu. Et cet ancrage dans le présent est extrêmement apaisant, est extrêmement ressourçant. Et c'est la raison pour laquelle on associe beaucoup la pratique de la méditation au yoga nidra. Le yoga nidra induit un état de méditation qui va être différent de la méditation qu'on pratique en position lotus. Néanmoins, il y a quand même pas mal de points communs, notamment en ce qui concerne la respiration consciente en yoga nidra. Il se peut aussi d'induire l'état de méditation par la respiration consciente. Et après, il y a différents niveaux. Enfin voilà, je ne vais pas entrer trop dans les détails. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous proposer, en tout cas pendant cette saison 4, de voir, donc je vais me répéter, voir comment la méditation peut nous aider à mieux vivre cette vie, à mieux vivre le changement, à mieux vivre nos deuils, à mieux vivre avec soi-même. Comment la méditation peut-elle aussi nous aider à mieux vivre ce passage de la vie à la mort, ce passage où l'on meurt. Pour terminer cet épisode, je voulais vous parler du Bardo Todol, qui est le livre tibétain des morts. C'est intéressant parce que Raymond Moody, qui est l'un des précurseurs des études sur les expériences de mort imminente, a fait un parallèle entre ces témoignages et le Bardo Todol, le livre tibétain des morts. Donc c'est un texte qui aurait été écrit au 8e siècle et qui a été redécouvert au 14e siècle. Son titre signifie littéralement la libération par l'écoute dans les états intermédiaires, c'est-à-dire les états de conscience d'une personne en fin de vie, son cheminement après la mort jusqu'à sa nouvelle incarnation. Ce texte était étudié et même lu lors de l'agonie d'un lama pour lui permettre de mieux vivre ce passage de la vie à la mort et donc lui permettre de se libérer du cycle de réincarnation ou de se réincarner dans une meilleure vie. Et cette lecture-là va décrire les différents états par lesquels l'âme, la conscience, passe. Et c'est intéressant de noter qu'on retrouve des éléments caractéristiques d'une EMI. La sortie du corps physique, où la conscience perçoit son environnement, et la rencontre avec une lumière. Beaucoup de témoignages parlent d'un tunnel de lumière, d'une lumière enveloppante, d'un amour inconditionnel qui se caractérise par de la lumière. C'est en lisant le livre de Christophe Fauré, « Cette vie est au-delà », enquête sur la continuité de la conscience après la mort, que je me suis informée de tout ça, de ce lien entre Bardo Todol et éléments caractéristiques d'une EMI. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le mot « gum », qui signifie « méditer » en tibétain, se traduit littéralement par « s'habituer », « se familiariser avec ». Donc, ça voudrait dire que, bon, il y a tout un tas de pratiques pour être un parfait méditant, pour se familiariser avec ce qu'on appelle la lumière primordiale, la claire lumière. Et donc, pendant sa vie de méditant, la personne va se familiariser avec la lumière fille, faire l'expérience intérieure de la lumière fille pour qu'au moment de sa mort, il puisse reconnaître la claire lumière et donc avoir un passage beaucoup plus fluide pour sa prochaine réincarnation. Voilà, on arrive à la fin de cette pseudo-bande-annonce. J'espère que ça vous donne envie d'écouter la suite. En tout cas, restez connectés. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Fleurs de Cactus via mon compte Instagram Susanna d'Arcambel. N'hésitez pas à m'écrire. Peut-être que vous avez un témoignage à me partager au sujet d'une EMI ou d'une expérience qui semble sortir de l'ordinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment cet épisode a résonné pour vous. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Thank you.